Vous écoutez France Culture.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont en direct aujourd'hui du Salon du Livre. Novembre 2007, dans le hall d'accueil du Googleplex, surnom du siège de Google dans la Silicon Valley, sur un petit écran plasma derrière le distributeur, gratuit, de jus de fruits pressés, un planisphère hérissé de barres de couleurs indique en temps réel le nombre de requêtes sur chaque point de la planète. À chaque langue correspond une couleur. Il est midi. L'Amérique du Nord clignote de rayures rouges, la couleur de l'anglais irisée au sud du jaune de l'espagnol. L'Europe achève sa journée dans un feu d'artifice de traits multicolores. L'Asie dort, mais scintille de petits peignes monochromes. L'Afrique est éteinte. Par-delà cette image borgésienne, l'addition dans la couleur de leur langue de tous les mots frappés à la surface du globe, il y a un phénomène réel. Chaque pixel du plasma figure des milliers de requêtes, des milliers de marchés. Au travail, chez soi, dans chaque pays sorti de la ruralité, chacun traque, rassemble, dispose, consomme des éléments de code. Pas un jour où n'apparaisse un produit, un service, un marché fondé sur le codage, le traitement, la circulation de l'information. Les mots, et avec eux les chaînes signifiantes auxquelles ils donnent accès, sont désormais au cœur de l'économie. Sur chaque page de réponse, une, trois, six entreprises payent pour vendre quelque chose. Le monde des entreprises embrasse le monde des mots. Rarement l'économie a donné une telle image d'elle-même. La carte instantanée des marchés linguistiques de chacun de nos mots. D'ailleurs, ce vitrail ne se voit qu'ici. Il n'est pas sur Internet. Comme l'algorithme de PageRank qui sélectionne les pages ou celui d'AdWords qui fixe le prix des mots, c'est un secret commercial. Ainsi commence l'économie immatérielle, un passionnant livre, par ailleurs très bien écrit, comme vous avez pu vous en rendre compte à la lecture de la première page, d'Olivier Bomsel. Bonjour Olivier Bomsel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, vous êtes directeur de la chaire ParisTech d'économie des médias et des marques et professeur d'économie industrielle à l'École des Mines à Paris. On vous devait déjà un certain nombre de travaux sur cette économie immatérielle. Je n'en citerai qu'un, un livre directement publié en folio il y a 2 ans qui s'appelait « Gratuit !», point d'exclamation, qui était une invitation à penser cette question de la gratuité dans l'économie nouvelle que nous connaissons depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et vous allez plus loin avec ce livre, publié toujours chez Gallimard, mais cette fois dans la collection d'Éric Vigne, la collection NRF-Essai. Ce livre sur les industries et les marchés d'expérience et qui nous permet de penser ces transformations de l'économie d'un point de vue peut-être plus académique, je dirais plus économiste encore, et de l'inscrire dans une longue histoire qui est celle de la science économique et de ses transformations. Transformation d'un côté de l'économie, mais transformation aussi évidemment des théories, des concepts qui permettent d'appréhender cette économie. Alors j'ai voulu commencer cette émission, Olivier Bomsel, en lisant la première page de votre livre, parce que d'abord je la trouve extrêmement bien écrite, comme je le disais, et qui nous permet de prendre véritablement conscience par la description de cette scène chez Google, de cette planisphère et de ce qu'elle donne à voir de la transformation de l'économie. Je voudrais ajouter tout de suite que ce que vous racontez après ça, c'est ce que vous voyez et qui contraste très fort avec cette planisphère Google. C'est une grève des mots, dites-vous. C'est la grève, on la connaît, des scénaristes hollywoodiens qui refusent de travailler dans de nouvelles conditions dictées par ces transformations de l'économie. Et le contraste, au fond, entre ces deux images par lesquelles vous ouvrez votre livre permet de prendre une partie de la mesure des enjeux de la transformation de cette nouvelle économie, Olivier Bomsel.
Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait véritablement de nouvelle économie. Ce qui est sûr, c'est que les mots occupe une place de plus en plus importante dans l'économie. Et de la même manière que Foucault avait décrit la façon dont les représentations de l'humanité évoluent au fil de l'usage de la langue et de sa distance avec ce qu'il appelle les choses, eh bien, je crois que l'économie a suivi une trajectoire un peu équivalente dans une chronologie plus resserrée, puisqu'elle est inventée au XVIIIe siècle. Mais quand elle s'invente au XVIIIe siècle, c'est une physiologie des choses. C'est un discours qui vise à isoler les fondamentaux de l'activité humaine présentés comme une activité matérielle à un moment où les explications du monde sont profondément spirituelles et religieuses. Et l'économie se construit comme un discours sur les choses en scission avec les discours religieux qui expliquent l'organisation générale de la planète et de l'humanité. Et cette économie des choses va basculer au moment au XXe siècle, quand on va comprendre que tout ce qui fondait les représentations de l'économie classique, à savoir la division du travail, l'appropriation des facteurs de production, etc., ne serait rien s'il n'existait derrière des outils pour communiquer, pour échanger entre les hommes, pour se coordonner au sein des sociétés et finalement pour structurer ou pour orienter les logiques, les dynamiques d'intérêt individuel dans le cadre des organisations collectives que sont les sociétés. Et à partir de là, la question de ce qu'on va appeler en économie les coûts de transaction, les mécanismes de coordination qui environnent quelque part les échanges matériels, les échanges physiques, dont les échanges physiques ne sont que l'effectuation d'une certaine manière, va prendre une place de plus en plus importante dans la réflexion économique. Et c'est parce que précisément il faut échanger de plus en plus d'informations pour pouvoir bénéficier de tous les gains de la division du travail qu'une part très importante de l'activité industrielle s'est focalisée sur la gestion de l'information, sur la productivité de son traitement et sur ce que j'appelle dans le livre la mise en circulation d'une nouvelle écriture qui va être le numérique.
Alors on a compris tout de suite en vous entendant que ce livre n'est pas le Xème livre consacré à une description d'une économie changeante qu'on appelle nouvelle économie. Évidemment qu'il tente de répondre à un certain nombre de questions et d'en poser aussi beaucoup d'autres par rapport à ces transformations, à cette révolution numérique qu'on vit au quotidien, chacun à notre manière. Mais vous avez compris que l'enjeu de ce livre était aussi un enjeu théorique assez fort, qui est une manière de proposer de repenser un certain nombre de questions de la discipline économie elle-même. Ce livre est assez bref, il fait 250 pages, mais il est d'une grande densité. Il est par ailleurs... on y trouve à la fin un glossaire extrêmement bien fait pour qui n'est pas forcément familier d'un certain nombre de concepts de l'économie. Moi, je voudrais très simplement, en fait, Olivier Bomsel, parce qu'on va avoir peu de temps pour explorer cette densité avec vous, partir d'une observation que vous faites et qui vous conduit à structurer votre livre en trois temps. Vous dites ce que vous entendez par, au fond, dématérialisation de l'économie. Vous dites la dématérialisation de l'économie, pour moi, c'est un... la substitution de l'information à la matière dans la création, la circulation et la consommation de richesses. 2. La numérisation, autrement dit, de l'écriture de l'information dans un nouveau code universel qui étend et dématérialise ses formes d'apparition. Et 3. La consommation comme expérience signifiante, génératrice de marques et de signalisation. Donc il y a 3 aspects à cette dématérialisation. Ça vous donne la structure, je le disais, de votre livre. Peut-être on peut assez simplement reprendre ces trois aspects pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, vous avez commencé à effleurer un petit peu la première dimension, celle de la substitution de l'information à la matière. vous nous avez expliqué qu'au fond, en revenant sur cette idée des mots et des choses, la science économique a été longtemps obsédée par l'idée de décrire ces choses, évidemment de les décrire avec des mots ou avec des concepts, mais que au fond, ce ne sont pas seulement ces concepts qui sont immatériels, ce sont aussi les relations sociales ou économiques qui se sont transformées. Alors, évidemment, vous faites l'histoire dans votre livre et vous reprenez un certain nombre de textes classiques, notamment Adam Smith. Vous faites l'histoire à la fois de la transformation de la théorie économique et de la transformation de l'économie, et vous montrez comment, au fond, on n'a pas attendu ce qu'on appelle la révolution numérique au sens le plus commun du terme pour que cette dématérialisation se mette en œuvre. Elle est déjà assez ancienne, au fond, Olivier Bomsel.
Mais la première, effectivement, il y a trois aspects de la dématérialisation. Le premier aspect, c'est celui qui consiste à comprendre que la division du travail n'est pas un fait naturel. C'est-à-dire que, contrairement à ce que écrit Smith, l'individu n'est pas spontanément doté d'un penchant troqueur, de l'envie de s'épargner des peines en s'accordant avec son voisin pour pouvoir se les partager. Cette possibilité qu'a l'homme de se spécialiser, de s'accorder avec les autres, s'appuie fondamentalement sur le langage et sur les systèmes de communication. Et donc, l'économie ne va pouvoir exister et ne va pouvoir progresser que parce que les hommes ont la faculté de se coordonner davantage entre eux. C'est pour ça que je pense que la meilleure métaphore de l'économie, ce n'est pas l'usine d'épingles telle que l'a décrit Smith traité sur la richesse des nations, c'est véritablement la tour de Babel, où dès lors que les hommes bénéficient d'un langage pour s'accorder entre eux, ils construisent, et dès lors que ce projet contrevient au dessein de l'éternel, le langage est supprimé, la construction s'arrête et les hommes sont dispersés à la surface de la terre. Donc l'usine naît du langage et strictement du langage, et derrière le langage, des systèmes de communication, au premier rang desquels, à Babel même, l'écriture sumérienne, et donc les systèmes d'écriture.
Alors l'écriture est extrêmement importante dans votre réflexion. Vous arrêtez beaucoup sur, pour penser au fond ce qu'on appelle la digitalisation, sur l'écriture. C'est-à-dire que là encore, il faut remonter assez loin en arrière pour comprendre les choses qu'on aurait tort de considérer comme une sorte de révolution brutale qui serait survenue il y a 15 ans ou il y a 20 ans, ou au moment de l'invention de l'informatique. Évidemment, toutes ces choses ont été extrêmement importantes.
Et je pense que le problème fondamental de l'économie, c'est que des accords puissent exister entre des individus et que une fois ces accords actés, ils puissent s'appliquer, s'effectuer, se rentrer en phase de réalisation. Et pour que ce processus advienne, il est extrêmement important de pouvoir garder trace des accords. C'est pour ça que l'écriture a constitué en réalité un outil de relèvement de la productivité de la coordination absolument considérable. Et pouvoir accorder ce que les économistes du XXe siècle ont découvert autour de ce qu'ils appellent les coûts de transaction, qui sont l'ensemble des activités qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir parvenir à un accord, à une convention, à une organisation sociale de la production ou de la vente, des échanges. Pouvoir accorder cette analyse et ces découvertes à l'importance du concept de la catégorie d'écriture est effectivement un élément du trajet, une étape du trajet du livre, dont la deuxième étape sera de dire oui, mais l'écriture qui va donner le droit, qui va donner les contrats, qui va donner la monnaie, qui va donner toutes les institutions profondément de l'économie, il lui arrive un avatar nouveau avec la numérisation, qui est que son dispositif technique change et que, en l'espace de 10 années, comme vous l'avez dit tout à l'heure pratiquement, la planète entière va se convertir à un nouvel alphabet qui est le 0-1, dans lequel vont pouvoir s'écrire tous les vecteurs de signification et tous les instruments de coordination au sein des sociétés.
En vous lisant, j'ai repensé à une révélation. J'ai toujours considéré que la vraie révélation du livre qui s'appelait Révélation précisément de Denis Robert n'avait rien à voir avec ce qu'il pouvait y avoir d'illégal ou dans ce qu'il décrivait, mais véritablement le fait de révéler qu'il existait un outil, une institution inventée par la finance internationale qui permettait précisément de centraliser, de garder, de conserver les traces d'écriture des flux financiers. C'est-à-dire que Clearstream, puisque c'est le nom de cette institution, était une sorte de notaire du monde, pour reprendre l'expression de Denis Robert, et que parce qu'il fallait bien à un moment donné que ces traces soient conservées. La dématérialisation qui avait commencé avec la désindexation sur l'or en 71, enfin, toutes ces transformations du capitalisme financier qu'on a vu se mettre en œuvre, a reposé aussi sur l'invention d'institutions nouvelles de ce type, qui elles-mêmes reposent sur des pratiques aussi anciennes que l'écriture, et sur le stockage des écrits et des contrats.
Mais ce que montre très bien Aglietta dans un texte que je cite dans le livre, Michel Aglietta, qui de mon point de vue est certainement le meilleur économiste monétaire français, si ce n'est international, c'est que les Lydiens, déjà quelques siècles avant Jésus-Christ, avaient institué le sceau sur les pièces de métal comme le véritable garant de la valeur de la pièce. Autrement dit, ce qui était gravé, ce qui était écrit, l'emportait sur la valeur du métal, et il était interdit par la loi de repeser les pièces, ou de les peser tout simplement, c'est-à-dire de contester la valeur de l'écrit dans l'échange monétaire bien avant l'apparition de Clearstream ou de la désindexation de la monnaie sur l'or. Déjà, les monnaies d'or étaient des monnaies purement scripturales dans lesquelles l'or n'était au bout du compte qu'un véhicule permettant de s'échanger de l'écrit. L'or n'était que la tablette, si vous voulez.
Sur la fidesse, sur la confiance, comme aurait dit Bourdieu, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces questions.
Absolument, et sur la signature de l'émetteur.
Fidèle, fiduciaire, bien évidemment. Alors, vous avez une réflexion dans votre livre aussi sur le mot et le concept d'information. Peut-être vous pourriez nous expliquer ce qu'il faut entendre par là, c'est parce que le mot est très ambigu.
Étymologiquement, information, ça veut dire mettre en forme. Et donc, mettre en forme signifiante. Et le terme information, qui est souvent synonyme de connaissance, voire d'apprentissage, mais disons de culture, le terme d'information a toujours été associé à des supports de mise en forme. Avec le numérique, on va appeler information tout ce qui peut s'écrire en 0-1. Et donc, la catégorie d'information est renvoyée au bit, ce qui constitue, d'une certaine manière, une nouvelle définition atomistique de l'information, alors qu'il s'agissait d'une action, d'une performance de mise en forme signifiante. Maintenant, information a une définition intrinsèque. C'est tout ce qui peut s'écrire en 0-1. Et ceci pose problème parce qu'on va appeler information aussi bien une toile de poussin que le visage de la présidente de la République ou la femme du président de la République ou que ce que nous sommes en train de produire en ce moment.
Alors Olivier Momsel, il y a toute la troisième partie de votre livre est consacrée à la transformation de la consommation, de la diffusion, entendu comme une expérience. Et de ce point de vue, vous rendez hommage au fond à quelqu'un qui a eu une intuition très très forte à l'époque. Je me souviens vraiment très précisément de la lecture du livre dont vous parlez, de Jeremy Rifkin, sur l'âge de l'accès. Il est venu d'ailleurs à la suite dans les idées en parler en l'an 2000. Et c'est vrai que quand on mesure tout ce qui s'est passé depuis 10 ans et que rétrospectivement on peut estimer au fond ce que Rifkin avait vu, qui était peut-être trop peu théorisé, mais qui consistait à dire au fond que la consommation n'était plus ce qu'elle était et que désormais, pour reprendre couple entre les mots et les choses. Les choses avaient évolué, si l'on peut dire, et les mots avaient pris davantage de pouvoir encore, et que désormais la consommation était davantage à penser comme une expérience que comme un rapport à un bien matériel.
Oui, je pense que l'intuition formidable de Rifkin, c'était de comprendre que dans la société de consommation moderne, le facteur de rareté était le temps, et que finalement, ce que faisait le consommateur, c'était consacrer du temps à la pratique de certaines activités dont il considérait que le système productif devait lui offrir l'accès. Et son ouvrage s'appelle « L'âge de l'accès », en référence à ce type de raisonnement. Et parmi les nombreux exemples de dématérialisation qu'il donne, il y a celui de la voiture qui, aux États-Unis, se consomme davantage par location que par achat, etc., etc. Moi, j'ai cherché à connecter cette intuition, ou ces nouvelles formes de consommation auxquelles elle fait référence, à des catégories déjà existantes de l'économie, qui étaient, depuis les années 70, justement, cette notion de bien d'expérience. Sachant que les économistes ont montré à partir des années 60 que consommer demandait de la part du consommateur un effort pour rechercher le bien ou le service dont ils ont besoin sur le marché au meilleur prix, et puis des efforts également pour évaluer autant que possible ex ante, et si c'est pas possible ex ante, ex poste, après quelques tests, la qualité des biens ou des services qu'il consomme. Et donc, c'est Philip Nelson qui invente dans les années 70 cette catégorie de biens d'expérience dont le principe est que ce sont des produits dont il vaut mieux, dont il est plus économique de les tester avant de les consommer systématiquement, plutôt que de chercher à s'informer maximalement, exhaustivement dessus. Et je me suis rendu compte que cette catégorie était en réalité une expérience par défaut, c'est-à-dire par impossibilité de connaître à l'avance toutes les caractéristiques du bien, mais qu'elle finalement s'appliquait essentiellement à des produits dont on réitérait ensuite l'achat de manière systématique, par exemple la bière, le dentifrice, les lames de rasoir, sont des biens d'expérience au sens de Nelson. Mais en réalité, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, beaucoup de biens et de services qu'on consomme correspondent à des expériences qu'on ne va vivre qu'une fois. Et même pour lesquels l'expérience n'est pas une façon de se caler sur un produit dont on va réitérer la consommation, mais un ajout à la trajectoire existentielle qui est la nôtre, qu'on va décider en pleine conscience ou en conscience relative du risque que ça représente. Et donc, d'un point de vue économique, ça pose un problème, parce qu'il y a beaucoup, il y a de plus en plus de produits dont la consommation présente un risque, qui est qu'on ne saura qu'après si finalement ça valait le prix qu'on a payé. Et ces expériences ont cette dimension d'inconnu absolu, parce qu'en réalité, les produits ont une signification pour celui qui les consomme. Une signification individuelle, ça ajoute quelque chose dans la trajectoire de connaissance ou d'expérience. Chaque fois qu'on, pour ma part, je débouche une bouteille de vin, ce qui m'arrive relativement souvent, plusieurs fois par jour malheureusement, j'ai l'impression d'ajouter à la trajectoire de tous les vins que j'ai bu. Et par ailleurs, ça va aussi signifier socialement, c'est-à-dire que quand on, quand ma fille achète des vêtements dans une... Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques sur votre antenne, dans des grandes chaînes de distribution de vêtements. Ça n'est qu'après l'avoir porté devant quelques amis à la maison qu'elle saura si, au bout du compte, ça vaut ce qu'elle a payé ou pas. Et la possibilité d'aller le rendre, de l'échanger, etc., fait absolument partie des conditions de consommation du produit.
Alors, vous avez pris, Olivier Memsel, deux exemples. D'un côté, le vin, singularité par excellence, et de l'autre, un vêtement qui peut aussi être une singularité, même s'il est produit en chaîne. Mais moi, j'aimerais vous interroger sur les conséquences de ces transformations que vous décrivez sur un type particulier de produit que vous connaissez bien, parce que vous avez consacré des travaux avec Gilles Leblanc, notamment au cinéma et au-delà, aux produits culturels. Donc, qu'en est-il de ces produits, de ces biens culturels et médiatiques dans cette économie immatérielle, Olivier Bomsel?
Alors, justement, ce qu'on appelle les médias qui étaient historiquement associé à la mise en forme de l'information doit être très profondément redéfini dans la... Et moi, j'appelle média, finalement, tout ce qui est système de communication d'un individu, d'un point, d'un émetteur identifié vers des publics anonymes. Les biens d'expérience doivent être considérablement signalés, prescrits, etc. Et une fonction des médias est aussi très largement d'informer le consommateur et de construire l'information du consommateur qui lui permettra d'accepter le risque de l'expérience à venir. Et puis, bien entendu, dans la même catégorie, il y a tout ce qu'on appelait jusqu'à présent bien culturel, mais le vin en fait partie, et le vin n'est pas complètement immatériel. La valeur naît d'une signification. Et on n'a pas le temps d'entrer dans le fond de votre question. Ce que j'essaye de montrer, c'est que les biens signifiants sont très profondément dépendants de leur système de prescription. Et donc que les marques ou l'ensemble des dispositifs institutionnels qui permettent de sélectionner, de signaler et de prescrire une expérience joue dans l'économie immatérielle un rôle de plus en plus fort.
Alors, c'est malgré tout, on vit, enfin, ces industries-là, celles qui produisent ce type de biens, une période compliquée. Comment vous la décririez? Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une véritable révolution? Parce qu'on voit à quel point tous ces modèles économiques sont bousculés, remis en cause. Cela risque, c'est même pas risque, enfin, cela produit de la destruction de capital accumulé, de catalogue. Est-ce qu'un certain nombre d'institutions ne vont pas être durablement affectées, voire détruites par cette révolution? Quel regard vous portez là-dessus sur la période, peut-être, je ne sais pas s'il faut la qualifier de période de transition que nous traversons actuellement?
Je pense qu'il y a une période assez confondante qui a été la période de propagation du système d'écriture numérique, la numérisation, dont on peut dire qu'elle est aujourd'hui terminée parce que...
La musique avait l'avance, parce que le passage au CD, c'est le début des années 80.
Oui, mais ce que j'appelle la numérisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, 3 milliards d'habitants de la planète sont équipés d'un terminal numérique et écrivent, y compris quand ils téléphonent, couramment en 0-1. Et donc, cette phase de propagation du système d'écriture s'est assortie de beaucoup de débordements sur le fonctionnement de tous les ou le raccordement de tous les usages possibles de cette nouvelle écriture. C'est stabilisé maintenant. Et on entre dans une deuxième phase qui est la valorisation dans le système d'écriture de tout ce à quoi l'écriture peut servir. Et ça va se faire autour de la remise en selle des marques éditoriales, dont le Salon du Livre est, à mon avis, un excellent exemple.
Alors, France Culture est une marque éditoriale forte, et puisque vous avez dit que la prescription est plus importante que jamais, je terminerai cette émission par une ordonnance, au fond, soulignée trois fois, lire Olivier Bomsel, L'économie immatérielle, industrie et marché d'expérience. C'est vraiment un livre passionnant, publié aux éditions Gallimard dans la collection NRF Essai. Merci Olivier Bomsel.
Merci beaucoup à vous.